Libre Radio, une radio libre. Point de chiffre, mais des mots qui comptent. www.libradio.org.
Jean, peut-être, et Pascal, ça...
Je ne sais pas, donc, qu'est-ce que vous aviez prévu?
C'est ta gare.
Ok. Je ne sais pas de quoi vous avez envie qu'on parle. J'étais pas parti de l'idée de parler de moi, mais tout peut se faire. Je ne sais pas si on est dans un bistrot psy ou si on essaye d'aborder les enjeux de 68. Je vais essayer de faire un peu les deux. Donc mon bouquin, c'est dans le fond l'aboutissement. D'une part, c'est vrai les questions que Marielle a posées à un moment donné. Tu ne voudrais pas faire un témoignage? Et à l'occasion de ce témoignage, j'étais remonté quasiment dans mon enfance. C'est-à-dire, moi, je suis un jeune 68-ard, j'avais 14 ans en 68. Mais 68-ard pleinement, parce que c'est une époque où on a ouvert les yeux sur le monde très jeune. Et le premier souvenir, disons, d'ordre philosophique, dont je me souviens, mais je me souviens de l'endroit, de la situation, c'est ma conviction que Dieu n'existait pas. Et ça, c'est quand j'avais 9 ans. Et je me souviens de quelle place j'avais dans l'appartement. Et tout à coup, je dis à ma sœur qui avait 10 ans, « Tu sais que Dieu n'existe pas. » Mais qu'est-ce qui te prend ? Et je dis, « Non, Dieu n'existe pas parce que personne ne peut savoir ce qui se passe dans notre pensée. Personne ne sait ce que je pense en ce moment. » Et donc, c'est inconcevable qu'il y ait un Dieu qui sache ce que je pense en ce moment. Bon, c'est un abord très subjectif. Je comprends que la question de l'existence de Dieu est beaucoup plus complexe. Mais c'était déjà une prise de position par rapport à un enjeu fondamental. Et bon, c'est une époque où on entendait beaucoup parler de guerre. Bon, moi, j'ai commencé à écouter la radio. Mon père écoutait, elle était quelqu'un de très attentif à l'actualité. C'est un homme de gauche qui venait d'un milieu quasi extrêmement pauvre, parce que son père était mort quand il était gamin. Lui, il était apatride, parce que son père venait de Russie, c'était une famille juive, son père était mort. Donc, mon père avait grandi vraiment dans l'extrême pauvreté. Sa mère travaillait, éduquait deux enfants, allait à l'usine, elle était manœuvre. Puis il avait, si on veut, réussi dans les 30 Glorieuses. Il était devenu, sa mère avait réussi à ce qu'il fasse des études, il était devenu ingénieur, et puis il travaillait dans l'industrie. Mais c'était un homme de gauche, je dirais. Il s'était rapproché du communisme, mais il n'aimait pas l'autoritarisme, donc il était plutôt libertaire. Voilà, donc j'avais un père libre-penseur et une mère qui était, je dirais, chrétienne de gauche, pour dire les choses simplement. Donc j'avais une très grande liberté, immense liberté pour me définir. Et puis, je suis arrivé dans ces années... Moi, je suis convaincu que 68 commence avant 68.
Oui,
ce que dit Marco, ça me parle. Depuis que j'ai ouvert les yeux, les débuts des années 60. Et puis, il y avait même un lien avec tout ce qui s'était passé à la Libération. On entendait parler de Simone de Beauvoir, de Sartre, de Camus. Et finalement, la culture dominante... pour ma génération, c'était une culture de gauche, c'était une culture humaniste de gauche, critique. Bon, maintenant, c'est vrai que la Suisse était très particulière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin, c'est le premier chapitre, c'est la Suisse avant 68, les années 50. Là, je l'ai fait en historien, à partir de travaux de recherche, etc. Et c'est vraiment très, très particulier. Le rôle que joue l'armée en Suisse est absolument décisif, le citoyen soldat, le fait que les femmes n'ont pas le droit de vote jusqu'en 71, c'est d'ailleurs assez lié à la conception du citoyen qui porte les armes, donc la femme ne portant pas les armes, elle n'est pas citoyenne, l'immigration, la question des ouvriers, là je ne suis pas 100% d'accord avec Marco, parce que la compassion
Moi, je pense que peut-être parce que j'ai pas du tout vécu une existence misérable, etc. Mais en parlant avec mes grands-mères, qui étaient un réservoir d'histoire, pour moi, d'histoire vivante, je voyais ce que ça avait été la condition ouvrière, ce que ça avait été... j'étais très révolté par l'injustice sociale, par la question de l'immigration. Pour moi, c'était absolument central, le tiers-monde. Donc, si tu dis compassion au sens de vivre comme une de sympathie pour les souffrances des autres, ça m'a toujours habité.
Je dis dans les mouvements tels qu'ils sont sédimentés à un moment.
Alors oui, mais je pense, et ça rejoint des recherches qui se font aujourd'hui, qu'Olivier Filleul, un politologue qui est à Lausanne, a fait sur le 68 des villes de province en France. Ils ont toute une équipe, ils ont étudié plusieurs villes de province, et en fait, ils ont étudié le 68 art de base, pas le leader. Et ils disent que ces vieux 68 art qu'ils ont retrouvés sont tous en train, enfin, sont pour un grand nombre d'entre eux, en train d'animer des trucs dans les quartiers contre le racisme anti-rom. Donc, ils ont gardé, ils ont perdu l'idée qu'ils allaient changer le monde ou faire la révolution, mais ils se battent à reculons contre la montée de formes de barbarie, de violence, de refus, de rejet, etc. Donc, ça, c'est pour moi une matrice vraiment fondamentale. Je suis d'accord avec Marco sur le fait que 68, ça commence avant 68. Aussi longtemps que je puisse me souvenir, moi, j'étais dans la perspective de 68. Je suis d'accord avec une autre idée qu'il a énoncée. C'est pas seulement la jeunesse. C'est la jeunesse de cette période qui se sentait comme invincible. On pouvait se trouver à l'université devant un prof bardé de diplômes et lui dire qu'il était con et qu'on était convaincus. Et ça n'existe plus. C'est très très rare. C'est très très rare.
Je sais pas si t'as passé de
côté. Non, mais j'en suis malheureux. J'en suis malheureux. Et d'ailleurs, un jour, il y a une équipe de théâtreux qui m'ont dit, écoutez, on va venir à votre cours, X cathédra, et puis on va faire un happening. Est-ce que vous êtes d'accord? On vous met dans le coup. Il y en a un qui va se lever, puis qui va dire, c'est complètement idiot ce que vous dites. Puis il y en a un autre bout de la salle qui va se lever, que je suis d'accord. Et d'ailleurs, les notes que j'ai prises, je les jette, parce que ça sert à rien, ce que vous avez dit, c'est bon. Et puis j'ai dit, ah ouais, c'est intéressant, on y va. Et ils commencent leur truc, j'avais de ça, mais médusé. Les gamins, ils étaient médusés. Puis moi, je restais tout tranquille, parce que moi, j'étais évidemment initié par l'affaire, mais il me semble que des trucs comme ça qui sont passés en 68, après, avec moi, des cours d'économie politique, où je disais au prof L'Huillier, qui était une espèce de, je sais pas, pour ceux qui l'ont connu, c'était un monument de l'économiste au service des banques, etc. Et dire on n'est pas d'accord, ce que vous dites c'est faux, parce que Marx a dit tatata, vraiment invraisemblable. Et malgré tout, on travaillait. Donc on était, je ne dis pas qu'on était géniaux, mais on était assez bons. On était solides sur les positions qu'on défendait, mais avec une arrogance. Mais invraisemblable. Pour le meilleur et pour le pire. Il y a des aspects un peu pathétiques, parce qu'il y en a qui n'ont pas... pas avancé justement parce qu'ils croyaient tout savoir en ayant lu trois brochures et trois résumés de bon.
Ici on langue de Pékin.
Ouais, Pékin ou autre chose, les petits cahiers rouges de la Ligue communiste.
Il y avait d'accord.
Je le fais un peu décousu parce que c'est un peu. Mais pour disons le bouquin, pour finir sur le bouquin c'est en gros. C'est qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le 68 en Suisse. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a une société extraordinairement conservatrice et réactionnaire, qui n'a pas été bouleversée par la Deuxième Guerre mondiale, où les élites étaient restées des gens extrêmement conservateurs. J'ai découvert, en faisant mon précédent bouquin sur les événements de novembre 1932, que tous ceux qui dirigeaient Genève dans les années 68, qui
qui étaient à des postes clés à l'université, à la tête de l'hôpital, du salon des autos, des institutions, c'était des gens qui avaient été dans l'extrême droite dans les années 30. Ils avaient un club qui s'appelait les équipes, c'était 150 personnes, et puis il y a un gars, c'était beaucoup des familles patriciennes genevoises, ou des gens qu'ils avaient cooptés, et ces gens-là continuaient à dominer Genève, si bien que tout jeunes, on s'est confrontés à des responsables politiques, culturels, institutionnels, qui étaient extrêmement conservateurs, mais qui avaient l'habitude de dominer, parce que c'est comme ça, puis c'est pas autrement, et qui n'avaient pas beaucoup de capacité de convaincre. Et donc, quand on a commencé à les interpeller...
Ils ne cherchaient même pas à convaincre. Ils étaient en place, donc...
Quand on a commencé à leur dire, c'est idiot ce que vous dites, ils étaient déboussolés. Alors qu'aujourd'hui, il y a des trésors de... Enfin, c'est en train de se perdre aujourd'hui, justement. C'est en train de se perdre. Le modèle Guy-Olivier Segond et ce type de gens-là qui ont chevauché la vague, pour ceux qui connaissent un peu cette période, qui ont chevauché la vague post-68 à Genève, c'était pas fréquent. Bon, il y avait André Chavannes, c'est vrai, il y avait quelques personnalités comme ça, mais la dominante était une dominante très conservatrice, et donc nous, on a finalement exprimé notre rejet face à des gens qui étaient assez démunis, je dirais. Quelque part, paradoxalement, c'était assez facile.
Ah oui.
Il fallait oser y aller et c'était le succès garanti.
Il n'y avait aucune expérience
aucune
expérience de la controverse. Un peu comme dans un pays autoritaire où les gens n'auraient pas appris à discuter et quand tu les contredis, ils sont surpris et ils sont désarmés. Donc, il y avait cette particularité qu'on vivait dans une démocratie assez autoritaire, fondée sur l'autocensure. Moi, le truc d'Urenmatt, que les Suisses sont une prison dont ils sont les geôliers, sont des prisonniers dont ils sont les geôliers, ça m'avait assez parlé. Je me souviens que, en fait, on n'était pas empêchés de faire des choses. Mais si on les faisait, ça provoquait une véritable... un émoi. Moi, je me souviens de l'armée où il nous faisait un exercice de drill, debout, assis, debout, assis, debout, assis. Puis moi, je suis resté debout. Et il me dit, je ne suis pas un chien, il n'y a pas où jouer ici. Et après, tous les autres venaient et disaient, ouais, t'as raison. C'est... Donc, il y avait un truc un peu qui suffisait. C'est plus comme ça aujourd'hui, c'est infiniment plus difficile. Mais qui suffisait d'introduire une contradiction pour que tu provoques un réflexe de sympathie ou d'entraînement. Et en plus, avec un sentiment que même si on perdait, on allait gagner demain. Et j'ai trouvé, dans mon livre, j'ai trouvé que pour les plus vieux, ils étaient moins optimistes. Ils étaient plus réalistes. Parce que les 68 tard, c'est la génération de Marielle ou de Marco et celle de Pascal et moi, mais voilà. On a 15 ans.
On est quasiment presque post-68.
Ouais, on est à la fin de la queue de la comète, ouais. Et il y a ceux qui étaient avant. Et ceux qui étaient avant, je les ai trouvés plus, ils avaient plus les pieds sur terre quand même. Ils étaient moins dans l'idée qu'on allait tout changer, me semble-t-il. Vous réagirez si c'est pas ça. Et puis les plus jeunes qui sont venus après, ils ont commencé à sentir le goût des défaites, le Chili, les trucs comme ça. Ils ont commencé à dire, c'est un peu grillé. Mais moi, je suis vraiment, je suis né en 54. C'est vraiment une période complètement ahurissante où à 14 ans, on a vu énormément de succès. Les révolutions dans le tiers-monde avec beaucoup d'illusions, hein, mais ça va de succès en succès. Et les gens n'ont pas besoin d'être extrêmement armés, ils gagnent. Et puis, on ne va pas seulement changer les rapports sociaux au sens traditionnel, on va aussi changer les rapports hommes-femmes, on va changer... La prison va disparaître, l'hôpital psychiatrique va disparaître. Enfin, imaginez cette vision-là. On va réinventer un monde, mais radicalement, profondément différent. Donc, c'est un peu ce sentiment que j'ai voulu donner dans ce bouquin, c'est qu'il y a eu... en particulier pour, je crois, ma génération au sens étroit du terme, une période de sentiment de puissance inouïe, de capacité de tout changer, qui n'était pas du bluff. C'est incompréhensible, c'est impossible de transmettre ce sentiment aujourd'hui. C'est-à-dire,
il ressemble au sentiment qu'avaient les gens qui avaient 20 ans, 45.
Ouais, probablement. Ouais, peut-être. Ouais.
Là, tout est possible, on a gagné.
C'est pour ça que le film de Scola, Nous nous sommes tant aimés, m'avait touché, parce que c'était 20 ans après que sont devenues nos illusions.
Je peux juste faire une remarque à ce propos.
Je vais m'arrêter. Parce que...
Moi, je me rappelle une des manifs, et on voyait d'anciens communistes qui avaient été cassés, c'était dans les années 50, et on les voyait qui pleuraient en nous voyant manifester. C'était incroyable, et tout à coup, ils revivaient, ils disaient « Ah, c'est quand même possible, tu vois ?» Ils avaient dû la boucler pendant un moment, ils s'étaient fait taper dessus, c'était trop chaud. Et tout à coup, ils voyaient des jeunes qui disaient ce qu'eux n'avaient pas pu.
Puis finalement, sur les rapports entre les... C'est vrai que c'était d'une violence théâtrale aberrante, les relations entre les groupuscules 68 ans. Mais d'abord, moi, j'étais pas un chef... Donc, j'étais un jeune, je n'étais pas obligé d'assumer ce degré d'antagonisme où il fallait être... parce qu'il y avait une sorte de phénomène de gourouisme, de gourouisme un peu pathétique. Donc moi, j'étais pas obligé de faire ça. Et puis, en y réfléchissant, j'ai gardé d'excellents... bon, moi j'avais été l'élève de Marco, on n'était pas dans la même organisation, mais moi j'avais de l'estime pour les gens qui étaient dans d'autres organisations d'extrême gauche. Et c'est peut-être une des choses qui a fait que solidarité a été possible au départ. C'est parce que avec Descaro, avec les gens de pour le communisme, avec Vanek, avec etc., on avait gardé des contacts corrects, disons.
J'ai jamais vu ça avec vous.
Ouais, fraternel, correct. Voilà, donc je dédramatise un petit peu la vision de Marco, parce que pour nous, c'était pas si grave, c'était un peu du cinéma.
Qui c'est ? Tu fais aussi partie pour les présentations ?
Je fais partie des présentateurs.
Alors ?
Et moi, je vais vous parler du livre, et donc je vais pas vraiment vous parler de moi, parce que moi, en 68, j'étais dans le pays d'Europe de l'Est, j'étais metteur en scène. J'étais comme Fabrice à Waterloo qui ne comprenait rien à ce qui se passait. Ça faisait 3 ans que je travaillais en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, que j'étais confrontée à une société bureaucratique. Alors je croyais que j'allais atterrir dans des sociétés beaucoup plus égalitaires. C'est ce qu'on m'avait raconté avant que je parte, que je m'étais confrontée à l'antisémitisme qui était vraiment crade et très dur en Pologne, avec des gens qui disparaissaient tellement, bon, soit qui partaient, soit qui se cachaient. Que j'étais confrontée à la Yougoslavie de la soi-disant autogestion dans le très grand théâtre où j'étais à Sarajevo. J'avais affaire à une petite cellule du parti de 4 personnes qui dirigeaient absolument tout. J'ai dit aussi, c'est ça l'autogestion. Donc je ne comprenais pas bien. Et le seul lieu où il y avait de l'espoir, en définitive, c'était Prague, où avec mon mari de l'époque, on s'est retrouvés en mai, en juin, en train de faire des mises en scène là-bas. Et là, on était dans une société où tout semblait possible. Quelques mois après, on est tombé de très loin. Donc moi, je n'ai pas vécu 68-1 ici à l'Ouest. Je ne l'ai pas vécu dans l'espoir. Je l'ai vécu dans la surprise de voir les étudiants dans la rue à Belgrade, dans la surprise de découvrir cette société qui n'était pas du tout égalitaire. Et en fait, je suis rentrée en Suisse en me disant « Mais c'est quoi ces sociétés ?» et en train de chercher une explication sur ce que j'avais vécu. C'est comme ça que je suis devenue trotskiste. Parce que...
L'horreur.
Je cherchais une explication de ce dont moi j'avais vécu et je l'ai trouvé, et je demeure d'ailleurs tout à fait convaincue, même si je suis trotskiste depuis très longtemps, qu'il y avait une réelle capacité d'analyse des sociétés en question à cette époque que les autres groupes, chapelles, comme vous voulez, n'avaient pas. Bon. Alors voilà, donc je ne vous parlerai pas de moi, mais je vous parlerai du livre parce qu'il s'est trouvé que... près de 50 ans après, un certain nombre de camarades, anciens membres de la Ligue marxiste révolutionnaire, trotskistes, on l'appelle trotskiste, pas trotskiste, comme vous voulez, se sont dit, bon, le temps passe, les mémoires sont bons, il est temps de faire un travail de mémoire, et donc ils ont initié discussions communes, Olivier Pavillon, Jean-Michel Doliveau, Clive Chair, quelques-uns. Et ils se sont dit, il faut recontacter des gens qui ont vécu ces années-là avec nous pour essayer de les faire parler, de comprendre d'où on vient et quelle vision commune ou pas commune on a aujourd'hui de ce qu'on a vécu. Donc ils ont élaboré un questionnaire, très bien fichu à mon sens de sociologue, mais peu importe, auquel moi, parmi beaucoup d'autres, j'ai répondu. Et sur les 600 personnes dont péniblement ils ont retrouvé la trace, les noms, les mails, je ne sais pas quoi, il y en a 110 qui ont joué le jeu et qui ont répondu. Et qui ont répondu de manière extensive, puisqu'on s'est retrouvé avec, je ne sais pas, entre 600 et 1000 pages de témoignages de personnes qui avaient essayé de raconter comment ils et elles avaient vécu ce moment où ils étaient devenus des militants ou des militants déjà engagés, notamment dans le PDT ou le POP, avaient opté pour une autre vision politique. Et ben c'est ça, le fondement de ce bouquin qui m'a donné beaucoup de difficultés. Moi, j'ai publié une vingtaine de livres, mais j'ai jamais eu autant de difficultés à écrire un livre, parce que cette masse de témoignages qu'il fallait tricoter pour arriver à sortir un récit sans essayer de trahir personne, je suis restée une année devant mon ordinateur à me demander si j'arrivais à faire quelque chose. Bref, il est là. Ceux qui sont concernés, celles qui sont concernées, sont plutôt contents. Les autres à l'extérieur disent « Quelle horreur du trotskiste, je ne vais pas regarder ça ». Moi, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant parce que sur ces 110 personnes, on a des gens qui viennent, alors là, c'est de la Suisse entière, c'est pas seulement de Genève, qui viennent de tous les milieux. Et on est assez loin de l'image des 68 arts, petits bourgeois ou fils de la bourgeoisie, parce qu'il y a pas mal de camarades parmi ceux qui ont répondu, mais c'était le cas aussi dans l'organisation, qui viennent de milieux modestes, voire pauvres, ouvriers de la campagne. On a des gens qui avaient 40 ans d'écart au moment où ils sont entrés dans l'organisation, donc ça donne aussi des regards qui sont très différenciés, parce que ceux qui étaient déjà militants, qui avaient été engagés dans les mouvements d'aide, notamment aux Algériens, de collaboration avec des camarades en France, qui avaient été dans le PDT, qui s'étaient plus ou moins révoltés, ou qui n'en trouvaient pas, en tout cas, des perspectives. Et puis, des beaucoup plus jeunes, comme Jean, la plus jeune, elle est en 60, parmi celles qui ont répondu, qui donc sont arrivées plus tard, carrément. Ils n'ont pas vécu 68, celle qui est en 60, elle n'a pas vraiment vécu 68. Mais elle est entrée dans la Ligue marxiste révolutionnaire, ou peut-être même dans ce qui s'est appelé ensuite le Parti socialiste ouvrier, quelque part en Suisse allemande plus tard. Et donc c'est sur les années 68, puisque comme quelqu'un l'a dit, c'est pas 68 l'année 68, c'est les années qui précèdent, et puis surtout celles qui suivent, ici en l'occurrence jusqu'à en tout cas la fin des années 80, le temps que cette organisation a existé, puisqu'elle a duré plutôt plus longtemps que d'autres groupes politiques. Donc c'est intéressant parce que dans ce questionnaire, on devait répondre à la fois à des questions concernant les trajectoires, et donc ça donne à voir qu'on a affaire à des gens d'origine très, très différente. On voit aussi, à propos des trajectoires, que le thème de la religion est très présent. Moi, ça m'a intéressé, que ce soit la religion catholique ou la religion protestante, que ce soit en termes de structures contraignantes contre lesquelles il fallait se révolter, ou au contraire, comme espace d'activité déjà dans le cadre de camps, et donc des regards aussi très, très contrastés sur les effets que la religion avait eu sur les uns, sur les unes et sur les autres. Et puis aussi, on nous a demandé comment on s'était radicalisé. Là aussi, les cheminements sont très divers. Alors il y a des thèmes qui ont été évoqués sur la révolte contre les rôles prescrits, et ce que Jean évoque par rapport à le caractère extrêmement lourd et peu permissif et autoritaire qui régnait dans un pays comme la Suisse. Et puis il y a aussi une thématique très forte qui est celle des inégalités. On voit bien que des individus, en l'occurrence, des garçons, des filles, confrontés à des choses qui les révoltaient en termes d'inégalités sociales autour d'eux, dans leur petit milieu. On saisit ça pour commencer à lire, et puis deux lectures sont passées à des réflexions, et puis on a accroché parce qu'ils ont vu passer des groupes XY. Il y en a certains qui ont été Mao d'abord, puis qui n'étaient pas satisfaits, alors qui sont passés à la ligne marxiste révolutionnaire après. Mais chez la plupart, la révolte contre le caractère extrêmement conservateur de la Suisse est très présent. Et puis on voit se dessiner les thèmes déjà très tôt de ce que deviendront des mouvements sociaux importants par la suite et pérennes, qu'il s'agisse du mouvement antinucléaire, qu'il s'agisse du mouvement contre l'armée qui ont été évoqués, du féminisme. Alors ça c'est pas 68, c'est plutôt 69, 70, mais comme les gens sont remontés dans leurs souvenirs sur une quinzaine d'années, on voit très bien le cheminement par rapport à ça et l'importance que ça a eu. Et alors ça c'est probablement une chose qui est plus caractéristique de ce qu'était ce mouvement dit marxiste révolutionnaire, il faut le faire quand même, c'est le poids de la formation. Et c'est vrai, parce que hein, pour entrer à la Ligue, il fallait passer un examen, entre guillemets, il y avait quelqu'un qui vous posait des questions, il fallait suivre des cours, etc. Bon, ça peut paraître extrêmement rebutant, ça paraissait pas comme ça pour ceux qui voulaient y rentrer, parce qu'il y avait une acceptation qu'il fallait se former, comprendre des choses qu'on n'avait pas compris probablement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les bilans qui sont faits au bout de 50 ans, il y a des regards vraiment très critiques hein, sur ce qu'était l'organisation, la façon dont elle fonctionnait ou fonctionnait mal, et notamment la question du sectarisme et comment on se conduisait vis-à-vis des gens, des autres chapelles, etc. Dire on n'a pas affaire à des gens qui sont comme ça. Mais cette question de la formation et de ce que ça leur a apporté dans leur vécu, dans leur devenir, ça c'est vraiment une constante quasiment qu'on retrouve dans la plupart des témoignages. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que par-delà tout ce qui faisait les failles de cette organisation précise en l'occurrence, que moi j'ai quitté en 86, seulement en 86, quand j'étais permanente de la 4e internationale à Paris, en claquant la porte, et j'ai quitté en étant très fâchée. Mais c'est, donc je suis bien consciente, parce que j'ai eu le temps, et même si je l'ai fait tardivement, de faire un bilan sur tout ce qui était les failles de fonctionnement de cette organisation. La question de la formation, de ce qu'on avait acquis intellectuellement, de la capacité à penser, à regarder le monde, à être critique du monde, si, ça c'est une chose que moi j'ai conservée et que visiblement la plupart de ceux et celles qui ont contribué ont conservé aussi. On me dirait qu'il y a un biais parce que sur les 600, on n'en a que, entre guillemets, 110. Pour la sociologue que je suis, 110 sur 600, c'est beaucoup quand vous lancez une enquête. Dans les faits, le biais, il vient du fait que tous ceux qui ne voulaient pas répondre, parce qu'ils étaient encore plus fâchés que moi, et d'ailleurs, disons avant, je ne sais pas si j'aurais répondu, ils n'ont pas témoigné. Donc, on a que quand même 110 personnes. Mais c'est quand même 110 personnes qui forment un arc de ciel. Parce que quand vous regardez où ils sont politiquement à l'heure actuelle, ils sont pour certains dans Solidarité, ils sont chez les Verts, ils sont chez les Socialistes. Il y en a un ou deux qui sont carrément passés dans des partis de droite, qui ont répondu quand même. Et c'est intéressant d'ailleurs qu'ils aient éprouvé le besoin de le faire, parce que ça en dit long sur en quoi ça les a marqués à un moment donné, en tout cas dans leur trajectoire. Bon, alors voilà, donc ils racontent tout ça, ils nous racontent notamment comment ils ont vécu les luttes contre toutes les politiques de domination, qui étaient assez au cœur de ce sur quoi on se mobilisait à la Ligue marxiste révolutionnaire, mais dans tous les autres groupes aussi, où on se retrouvait dans les manifestations, qu'il s'agisse du Vietnam, qu'il s'agisse du stalinisme, où on n'avait pas tous les mêmes analyses, de loin, mais enfin, ça fait rien, c'était des lieux de regroupement et de réaction et de révolte commune sur un certain nombre de points. Et là, ils disent en particulier en quoi les analyses que cette organisation-là leur apportait sur la question du stalinisme, ce qui se passait dans les pays d'Europe de l'Est ont été importantes. Mais bon, on voit que chez la plupart, la question de la dimension internationale dans leur radicalisation et dans leur cheminement respectif a été quelque chose de très important. Et puis, c'est intéressant aussi de voir, je ne veux pas sur la question de leur engagement politique respectif, Mais comment il voit rétrospectivement ce qu'était l'hyperactivisme dont on était affecté. Je ne sais pas si c'était comme ça dans tous les groupes politiques ou si c'était spécifique chez nous. Mais bon, chez nous, c'était vraiment très... chez nous, entre guillemets. C'était vraiment très, très, très fort. Et on voit bien quand les gens décrivent leur quotidien, ils disent qu'il n'y avait plus beaucoup d'espace pour le reste, ni pour les rapports familiaux, ni...
Alors, on le retrouve dans le film de Goupil, Mourir à 30 ans. Ça, Mourir à 30 ans.
Oui.
L'hyper-investissement, le groupe, la totalité de ma vie.
Oui, l'hyper-investissement était quelque chose de très fort, et puis c'était lourd au sens où, les cotisations, c'était lourd à la Ligue pour ceux qui travaillaient. Pour ceux qui ne travaillaient pas, qui étaient étudiants ou qui étaient permanents, ça ne faisait pas trop de problèmes. Pour ceux qui travaillaient, c'était 10% de leur salaire. Et il y en a un qui raconte qu'une fois, il était dans un train avec un copain du PS et qui... Ils se racontaient des histoires sur leurs cotisations respectives et que lui, il payait en un mois ce que l'autre payait en un an. Bon, c'est pas rien, je veux dire. Il y avait un engagement à la fois dans le temps qu'on y conférait, dans ce qu'on faisait pas par ailleurs, qui avait sûrement aussi des répercussions négatives. Et puis, il y a eu tout ce qui avait trait aussi à la répression parce qu'il y en a pas mal parmi ceux qui étaient déjà salariés, qui ont payé relativement cher pendant une durée, en tout cas pendant un certain temps sur le plan professionnel. Mais à ce propos, c'est aussi intéressant de voir que sur les 110, il y en a énormément qui ont été en reprise d'études par la suite, y compris ceux qui n'avaient pas fait d'études avant, et où là, cette dimension de la formation a été un levier pour prendre le train et faire des études et passer ensuite à d'autres milieux. Et on voit d'ailleurs que les trajectoires sociales, quand on regarde les parents et les enfants, sur ces 110-là en question, elles sont très ascendantes pour beaucoup d'enfants. Bon, et puis il y a un chapitre sur la question du privé, des communes, de qui a vécu ça, comment. C'était pas une organisation qui était particulièrement branchée sur la question des communes, mais il faut dire aussi que sur les 110 personnes qui sont assez largement répartis entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, il y a relativement peu de Tessinois qui ont répondu. Chez les Suisses alémaniques, il y avait quand même une pratique des communes beaucoup plus répandue. Mais ils disent bien que c'était plus de l'ordre pour eux de la coloc actuelle que des communes au sens des communes qui ont été pensées, voulues comme telles et pratiquées de manière différente par d'autres groupes sociaux et politiques, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais ça ne fait rien, c'était intéressant aussi de voir quelles étaient leurs réflexions, et puis sur le féminisme également, parce que le féminisme, c'était pas évident nulle part, et à la LMR non plus. Moi, je faisais partie du bureau politique, j'étais la seule femme à l'époque, et c'était pas drôle tous les jours, et j'ai été... En fait, je suis devenue féministe grâce à mes copines, parce que c'est elles qui ont pris le train en marche et qui sont entrées dans les premiers groupes femmes à Lausanne et ailleurs. Et alors quand elles ont commencé à me parler, je voyais ma propre situation à l'intérieur du bureau politique, puis je me voyais metteur en scène en Europe de l'Est, rejetée par tous parce que j'étais une femme. Je dis, ah bon Dieu, c'est bien sûr. J'ai compris et là je suis devenue féministe. Et j'ai mené la bagarre à leur côté et avec elles à l'intérieur de l'organisation ensuite. Mais spontanément, je n'étais pas arrivée toute seule à la compréhension, en dépit de la formation, parce qu'il faut dire que les rapports étaient assez machos à l'intérieur de l'organisation. Bon, voilà. Donc, c'est ça que raconte ce livre. Et puis, dans une dernière partie, les gens racontent ce qu'ils sont devenus et par où ils sont passés, ce qu'ils font à l'heure actuelle. Et ce n'est pas du tout inintéressant de voir dans ces 110 trajectoires ce que les unes et les autres sont aujourd'hui et comment ils regardent leur passé relativement lointain. Voilà.
Si tu peux juste nous dire le titre.
Ça s'appelle 1968, des années d'espoir, parce que précisément c'est la même année, c'est 15 ans. Et je l'ai intitulé Jacqueline Heinlein et 110 autres, parce que c'est vraiment sur leurs matériaux à eux que s'appuie le livre, et c'est de ça que j'ai tiré ce récit, qui n'est pas le mien personnel.
Merci.
Merci.
www.libradio.org La radio qui vient à ta rencontre.